Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez le programme de Studio Tamani, le 8h à Kidal, où vous nous écoutez sur la radio Tisdas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. Le journalisme d'investigation, un genre mal aimé au Mali, le harcèlement et les menaces ou le manque de moyens seraient les principales causes qui découragent les professionnels dans ce domaine. Une centaine de journalistes, de blogueurs et d'activistes se sont familiarisés avec les techniques du journalisme sensible au conflit. La session de formation a eu lieu cette semaine à Bamako. Comment les co-épouses doivent-elles se comporter pour attirer le mari? Une saine concurrence entre co-épouses peut-elle rendre un mari heureux? C'est le sujet de notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui. Le développement de ces titres dans un instant avec Mirana Kilomaïga, la mise en onde Mamadou Ouattara. Le journalisme d'investigation est un genre journalistique peu développé au Mali. Pour des spécialistes, la peur du harcèlement et les menaces font que peu de professionnels s'intéressent à ce journalisme d'enquête. Aussi, il n'est pas suffisamment pris en compte dans les programmes éducatifs des écoles de journalisme, reconnaissent les acteurs. Reportage de Yenaba Diallo.
Le journalisme d'investigation est certes un genre journalistique difficile à entreprendre dans notre société, mais utile selon les professionnels, car il fait la promotion de la démocratie. Alexis Calambri, directeur du journal Mali Tribune.
Le journalisme d'investigation répond aux besoins et aux missions fondamentales du journaliste, qui est de l'idéalisme, faire appliquer plus de justice et faire en sorte que l'injustice soit le plus combattue.
Ce genre fait face à d'autres obstacles, notamment le manque de formation. Il est développé dans les écoles de journalisme. Aboubakar Abdelwahid Oumaïga, directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication.
Nous avons pris l'habitude d'inviter des journalistes de l'extérieur pour qu'ils viennent animer des séminaires extra-pédagogiques avec les étudiants afin qu'ils puissent mieux expliquer ce qu'ils font sur le terrain en matière d'investigation.
Seulement une dizaine de journalistes d'investigation sont enregistrés au Mali. Ils sont confrontés à certaines difficultés, affirme Chaka Doumbia. Il est le secrétaire exécutif du réseau des journalistes d'investigation au Mali.
Les menaces et les existent, elles sont physiques, elles sont aussi verbales. Aujourd'hui, l'une des difficultés majeures qui plane sur nous est relative à la loi sur la cybercriminalité. Et il y a une loi assez répressive que nous dénonçons, que nous appelons à une relecture évidente de cette loi.
Les difficultés financières pour mener les enquêtes restent un autre défi du journalisme d'investigation au Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Un atelier de formation des journalistes sur le journalisme sensible au conflit a pris fin ce mardi 10 septembre 2024 à Bamako. L'objectif, selon les organisateurs, était d'outiller des hommes de médias afin d'élever leur niveau professionnel pour se mettre au service de la paix et du développement. Cette session a été initiée par l'ancien directeur général de l'ORTM, Salif Sanogo, en partenariat avec l'URTEL, Appel Mali, et financée par l'ambassade des États-Unis. Reportage de Khalifa Guita.
Pour cette première étape de formation à Bamako, ils sont 25 journalistes. Le formateur Salif Sanogo juge que les journalistes doivent être conscients du rôle crucial qu'ils peuvent jouer en période de conflit.
En période de conflit, il y a des terminologies que nous ne devons pas utiliser pour attiser la violence. Quelle est la conduite que nous devons prendre? Comment lutter contre les fausses informations? Un journaliste, quand tu vas dans une zone en conflit, quelles sont les règles que tu dois respecter? Comment faire du journalisme en période électorale? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la guerre informationnelle. Ça passe généralement par nous, les médias, on peut nous manipuler sans qu'on le sache. Et quand on a les outils, on saura faire la part des choses.
Des participants estiment que cette formation est la bienvenue pour l'exercice de leur métier.
Mes attentes sont vraiment énormes. En tant que journaliste, nous devons tous savoir quoi dire, quoi faire. Et à la fin de cette formation, je serai en mesure de pouvoir écrire un article qui fait vraiment référence au journalisme sensible au conflit.
L'actualité l'oblige et un journaliste doit être bien équipé, bien armé. Je tiens vraiment à rester jusqu'au bout, avoir beaucoup d'expérience. De plus,
il faut noter que cette formation continue se tiendra à Koulikoro, Ségou et Sikasso dans les prochains jours.
Dans la région de Mopti, l'utilisation des engins explosifs improvisés par les groupes terroristes est dénoncée par les humanitaires. Fakasi Fofana, coordinateur des ONG de la région de Mopti, indique que la menace des engins explosifs improvisés reste constante dans certaines zones de la région. Il est au micro de notre correspondant à Mopti, Mamadou Okomina.
Aussi l'ancienne de Koupa, ces deux zones, la zone évoluée, la zone inondée, et tout cela, il y a le problème d'engins explosifs aussi qui est actuellement en cours. beaucoup parlent aussi du fait que certaines parties, certaines zones sont carrément inaccessibles parce qu'il y a des dangers qui sont enfouis, qui sont sous la terre là-bas.
Mm-hmm.
Et là, ça peut exploser n'importe quel moment. Donc franchement, il y a certaines autres parties qui sont pas tellement recommandé en termes de déplacement. Donc, en même moment, c'est l'accessibilité qui pose problème en ce temps-ci.
Améliorer la qualité de la prise en charge des blessés victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. C'est l'objectif d'une session de formation débutée hier à Kati. Cette session de 3 jours est initiée par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le CHUI Kati et la Polyclinique des armées, regroupe des agents de santé. Reportage de Khalifa Goïta avec la voix de Mamadou Samaseko.
Professeur Lay Touré, directeur général du CHI de Kati, estime que cette formation vient à point nommé. Pour lui, les différentes unités spécialisées vont tirer profit de ces échanges et discussions pendant ces 3 jours.
Nos différentes équipes, le service de traumatologie, d'anesthésie et réanimation, le service des urgences et d'autres spécialités comme la chirurgie abdominale prennent en charge ces blessés de guerre. Mais la nature des blessés ont beaucoup changé sur le plan de la gravité des lésions, sur le plan aussi de la cible. Nous pensons que c'est nécessaire de faire régulièrement une mise à niveau pour être en harmonie avec ce qui se passe sur le terrain.
Pour le coordinateur santé du CICR au Mali, leur approche aux côtés du personnel de santé s'inscrit dans leur agenda d'activité. Dr Moufouta Gabriel insiste sur le bien fondé de cette formation.
La prise en charge au niveau de cette institution nécessite une approche assez spécifique par des techniques qui sont simples, efficaces, qui utilisent des moyens limités. Chirurgicalement parlant, nous nous concentrons sur ça aujourd'hui, mais il y a aussi tout celui qui est traumatisé, qui vit une situation d'horreur sur le terrain, a besoin de prise en charge pour se reconstituer. Mais il y a des techniques qui permettent de mieux faire ressortir cette blessure.
Les responsables du CICR ajoutent que d'autres formations sont prévues dans l'avenir dans d'autres localités du pays.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Notre rubrique Zoom sur d'aujourd'hui met l'accent sur la concurrence positive entre coépouses des foyers polygamiques. C'est avec Lali Tangara.
Kadi et Fatou sont toutes les deux mariées à Amadou. Les deux coépouses partagent la même cour. L'heureux époux Amadou est chouchouté par ses deux femmes, chacune en sa manière. On peut bien dire que ce foyer conjugal est exceptionnel. Vraisemblablement, il n'y a aucun conflit entre ces deux femmes, car elles se disputent rarement. Mais chacune d'elles reste sur ses gardes. Les moindres faits et gestes sont enregistrés. Si aujourd'hui Kadi, la première femme, offre du tissu cousu à Amadou, le lendemain matin, Fatou le surprend avec du basin brodé. Elle va jusqu'à écrire son nom dessus, Fatouka Amadou, pour montrer le degré de son amour. C'est une manière pour elle de marquer leur territoire et à n'importe quel prix. Quant au mari Amadou, il en profite bien. Il va même, avec malice, susciter la concurrence entre ses épouses. Pour lui, cela vaut mieux que les disputes inutiles. Toujours bien habillé, du pied à la tête. Et avec de la classe 1, et s'il vous plaît, sans dépenser un rond. Vous convenez donc avec moi que c'est vraiment un foyer exceptionnel. Seulement, à ce rythme, est-ce que le mari ne risque pas d'attirer une troisième?
Rappel des titres, nous avons évoqué le journalisme d'investigation, un genre mal aimé au Mali. Le harcèlement et les menaces ou le manque de moyens seraient les principales causes qui découragent les professionnels dans ce domaine. Nous l'avons également dit, une centaine de journalistes, de blogueurs et d'activistes se sont familiarisés avec les techniques du journalisme sensible au conflit. La session de formation a eu lieu cette semaine à Bamako. Et comment les coépouses doivent-elles se comporter pour attirer le mari? Une scène concurrence entre coépouses peut-elle rendre un mari heureux? C'était dans la rubrique Zoom sur d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale qui du jeudi 12 septembre 2024, présentée par Imirana Kilomaïga et mise en onde par Mamadou Ouattara. Vous pouvez retrouver nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web ou notre page ou sur notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Vous avez également la possibilité d'appeler le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. C'est tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi. La détresse respiratoire est définie par des professionnels de la santé comme étant une incapacité de l'appareil respiratoire à assurer le besoin en oxygène de l'organisme. Ce type d'insuffisance respiratoire est constaté chez les nouveau-nés selon des spécialistes de la santé. Cependant, il existe de nombreuses causes possibles à cette altération de la fonction pulmonaire. Parmi celles-ci, l'asthme, la complication d'une maladie respiratoire ou cardiaque, entre autres. La détresse respiratoire peut parfois persister avec des signes plus inquiétants. La détresse respiratoire chez les bébés, c'est le thème du magazine Santé du jour. Il est présenté par Alice Cissé.
Cette pathologie est perceptible chez le nouveau-né dès les premières heures de sa naissance, indique Dr Mamari Koulibaly, clinicien pédiatre à la polyclinique Pasteur à Bamako. Il affirme que cette sensation de respiration difficile et inconfortable chez les nourrissons s'est hissée en tête de la liste des pathologies les plus fréquentes.
Quand on prend les pathologies qui sont très fréquentes chez les nouveau-nés, pratiquement on peut dire que la détresse respiratoire prend la première place, que ce soit les pathologies infectieuses ou les pathologies cardiaques ou les malformations de la détresse respiratoire pratiquement prend la première place. Les différentes causes de cette détresse respiratoire, ça se répartit en deux grands groupes, les causes médicales, nous avons les causes chirurgicales également.
Cette difficulté dans la respiration des nouveau-nés est bien connue des mères de famille à Bamako et à l'intérieur du pays. Certaines mamans rencontrées à Bankas, Bafoulabé, Mopti ou encore Sikasso témoignent.
Mon bébé a eu un mois de sa naissance, un problème en ce moment, sa respiration est accélérée. Lorsque cette détresse respiratoire est un peu prolongée, je l'amène le plus tôt possible au centre de santé.
Un enfant dont la maman a subi une césarienne était entre mes mains. Il avait des difficultés à respirer, je lui ai fait un massage cardiaque. Après mon accouchement par césarienne, mon enfant avait une incapacité respiratoire. Il avait inhalé du liquide amniotique. Je l'ai aussitôt amené à la pédiatrie.
Un de mes enfants avait cette détresse respiratoire. C'est épuisant et ça rend fébrile l'enfant.
Les professionnels de la santé évoquent quelques signes annonciateurs de la gravité d'une détresse respiratoire. Docteur Oumar Habibou Diallo, pédiatre.
Plus l'âge est petit, plus le risque de gravité est là. Les nourrissons de moins de 6 mois ont plus de gravité. Les antécédents pathologiques, un enfant qui a une cardiopathie congénitale, qui a des atteintes pulmonaires, a plus de risques de gravité que ceux qui n'en ont pas. La prématurité expose à des risques de gravité. Également, lorsque l'enfant a une incapacité de téter, donc on peut penser que ceci c'est un critère de gravité.
Quelles sont donc les causes d'une détresse respiratoire chez un nourrisson? Comment savoir qu'un enfant fait une détresse respiratoire? Docteur Mamari Koulibaly révèle des indices qui nécessitent une prise en charge d'urgence.
Nous avons surtout l'infection néonatale sur le nouveau-né. Après, les causes de détresse respiratoire d'ordre chirurgical, notamment on a la trésie de l'œuf sauvage. On peut avoir une perforation qu'on a pour savoir qu'un nouveau-né fait la détresse respiratoire. C'est avec les indices de surveillement, notamment le battement des alignés, le tirage intercostal. La détresse respiratoire fait partie des signes d'urgence médicale.
Il n'existe pas une prise en charge exacte de la détresse respiratoire des bébés, insiste de son côté Dr Oumar Habibou Diallo. Ce praticien affirme que le diagnostic se fonde sur plusieurs critères.
Donc cette prise en charge peut être médicale, chirurgicale ou médico-chirurgicale. Il faut déjà identifier l'étiologie de la détresse respiratoire et adapter une prise en charge correcte selon les recommandations de cette pathologie. Cependant, au vu de l'urgence, lorsque les signes sont aussi graves, nous pouvons procéder à ce qu'on appelle une libération des voies aériennes supérieures.
Les nourrissons qui naissent par césarienne sont plus exposés à une détresse respiratoire que ceux qui naissent par voie naturelle.